E-Radio présente Enquête d'Europe.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Enquête d'Europe, organisée dans le cadre de notre Master en Sciences Politiques de l'Europe à Nantes Université. Je suis Rosane Abjan et je suis accompagnée de Boris Chéron. Au programme aujourd'hui, le droit à l'avortement peut-il être inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ? À l'heure où l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution est en débat au Parlement en France après son adoption par l'Assemblée nationale le 24 novembre 2022, puis par le Sénat le 1er février 2023, la question se pose également sur le plan européen et sur les conséquences que la prise de position de la France pourrait avoir sur la place du droit à l'avortement au sein de l'Union européenne.
Alors, pour en parler aujourd'hui avec nous, Bérangère Marques-Pereira, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes sociologue diplômé de l'Université libre de Bruxelles et vous avez également étudié puis enseigné la science politique et les relations internationales. Vous êtes à nos côtés puisque votre thème de recherche porte sur la citoyenneté des femmes et notamment sur les mouvements féministes en Amérique latine, ainsi que sur la thématique du droit à l'avortement. À ce sujet, vous avez d'ailleurs publié en 2021 le livre « L'avortement dans l'Union européenne, acteurs, enjeux et discours ». En outre, vous avez un parcours associatif très riche. Depuis 2021, vous assurez notamment la présidence de l'Université des Femmes, une association d'éducation permanente à Bruxelles, d'où vous nous parlez d'ailleurs aujourd'hui. Avec nous également aujourd'hui, Violaine Lucas, bonjour.
Bonjour.
Professeur au lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire, d'où vous nous parlez d'ailleurs. Vous êtes depuis janvier 2021 la successeuse de Gisèle Halimi à la présidence du mouvement Choisir la cause des femmes, qui, à l'origine, avait pour but de lutter contre la dépénalisation de l'avortement. Ancienne conseillère régionale et maire adjointe de Saint-Nazaire, vous avez notamment porté un travail d'analyse comparé des droits des femmes au sein de l'Union européenne sous le nom de « La clause de l'européenne la plus favorisée » afin d'actualiser la première étude de ce type qui avait été réalisée en 2008. Alors merci à vous deux de nous accorder le temps d'une émission.
Donc, le droit à l'interruption volontaire de grossesse, donc qui est plus connu sous le sigle IVG, cette pratique dont on estime que près de 40% des femmes y ont recours au moins une fois dans leur vie, est désormais quasi universelle au sein de l'Union européenne. Toutefois, son application en 2023 reste à géométrie variable, notamment parce que cette union de nature politico-économique n'a aucune compétence pour légiférer dans le domaine du droit à l'avortement. Et sa reconnaissance relève donc de la souveraineté nationale des États membres. Et une brève vue d'ensemble des législations au sein de l'Union européenne montre que ce sujet il est très polarisant aujourd'hui en fonction des États membres. De son autorisation en 1938 en Suède à celle en 2018 en Irlande, ou entre les 22 semaines de grossesse autorisées aux Pays-Bas et les 8 au Portugal, les réalités aujourd'hui sont bien différentes en fonction du pays où l'on souhaite recourir à un IVG. Et il en est de même concernant les motifs qui autorisent à avorter. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, on a certains pays comme l'Irlande qui l'autorisent seulement si la vie de la femme est en danger. D'autres ajoutent encore le prétexte de la santé physique ou mentale de celle-ci, même si aujourd'hui, la majorité l'autorise à la demande et sans justification particulière.
Autre question importante, celle du corps médical qui peut avoir recours à la clause de conscience. Aujourd'hui, seules la Suède, la Finlande et la Lituanie n'autorisent pas l'objection de conscience. A contrario, on estime que 71% des praticiens en Italie refusent de pratiquer l'avortement, entraînant ainsi près de 15 000 actes clandestins par an, selon le gouvernement. Alors, quand les eurodéputés ont demandé au Conseil européen, dans une résolution adoptée le 7 juillet 2022 par 324 voix favorables contre 155, d'inscrire à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE que toute personne a droit à un avortement sûr et légal, autant dire que plusieurs acteurs ont montré leur scepticisme et leur hostilité face à cette initiative, qu'il s'agisse de pays membres de l'Union ou d'associations provenant de la société civile. D'autant plus que pour permettre son inscription dans la charte, l'unanimité est nécessaire dans ces institutions et notamment au Conseil européen.
Alors tout d'abord, Violaine Lucas, je voudrais commencer par vous demander, vous, quel est votre sentiment sur la situation actuelle en France et justement, qu'est-ce que vous inspire en fait ce mouvement en faveur de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution qui, on le rappelle, 48 ans après l'adoption de la loi Veil, répond à la décision prise par la Cour suprême des États-Unis d'annuler la garantie nationale du droit à l'avortement.
D'abord, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je tiens à préciser en fait que j'ai travaillé avec Gisèle Halimi à partir de 2003 au sein de l'association Choisir la cause des femmes, dans laquelle nous sommes absolument toutes bénévoles. En fait, mon métier de prof, c'est quelque chose. Et puis à côté de ça, on a cet engagement, pour moi, depuis 2003 auprès de Gisèle Halimi. Et ce qui fait que le projet dont vous avez parlé tout à l'heure, qu'on avait publié en 2008, c'était vraiment une équipe de bénévoles qui l'avait fait au niveau européen et qui, aujourd'hui, est en train d'actualiser. Pour vous répondre sur la situation en France, nous, on a, historiquement, Choisir la cause des femmes est très liée et s'est fondée sur la défense du droit à l'IVG. C'était en 1972, après le procès de Bobigny, pendant lequel Gisèle Halimi avait défendu Marie-Claire Chevalier, qui s'était faite avorter après un viol. Et Gisèle Halimi avait gagné ce procès, et c'était une des premières marches. Il y avait évidemment eu d'autres éléments pour la légalisation en France. Donc aujourd'hui, ce qui se passe avec la volonté d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement, je pense que c'est quelque chose de super important qui se passe à un moment où on voit bien que si on n'est pas proactif sur ces questions, on peut facilement avoir des retours en arrière. Et donc, ce qui est en train de se produire est super intéressant. Ce qui s'est passé au Sénat, même si c'est l'inscription non pas d'un droit, mais d'une liberté, est un premier pas qui est vraiment important. Et donc, on attend de voir. Et nous, notre combat, il se situe maintenant au niveau européen. Donc, je serais peut-être aussi plus... Enfin, je pourrais plus vous parler de ce qui se passe dans les autres pays, de notre idée de prendre le meilleur de l'Europe pour les femmes, pour illustrer en quoi la France pourrait s'inspirer d'autres pays européens pour cette inscription dans la Constitution et dans la Charte des droits fondamentaux.
Et quant à vous, Bérangère Marquez-Pereira, vos recherches scientifiques portent beaucoup sur l'IVG notamment. Ces dernières semaines, on a vu dans la sphère médiatique et politique que certains parlementaires ont par exemple avancé que la constitutionnalisation du droit à l'avortement ne devrait pas être une priorité politique en ce qu'il ne serait pas vraiment menacé en France, à l'instar de Bruno Retailleau, notamment sénateur LR. A contrario, on a d'autres personnalités comme Sylvie Pierre-Brosselette, présidente du Haut Conseil à l'égalité, qui plaide pour la constitutionnalisation de ce droit qui permettrait véritablement à la France de rentrer dans l'histoire, en ce qu'elle deviendrait le premier pays à y inscrire ce droit dans la Constitution. Alors vous, est-ce que vous pourriez nous partager votre ressenti quant à la mise à l'agenda de cette demande de constitutionnalisation ?
Oui, merci d'abord de m'avoir invité. Alors, pour répondre à votre question, je ne suis pas certain du tout que un pays comme la France ne soit pas menacé, étant donné les déserts médicaux qu'il y a en France, en particulier sur la question de l'accès à l'IVG. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je trouve également que c'est important la constitutionnalisation du droit d'accès à un avortement sûr et légal en France en particulier, au plan symbolique, mais il y a quand même un gros problème. À l'Assemblée nationale, ce qui est apparu comme formulation, c'est « la loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'avortement ». Tandis qu'au Sénat, on ne fait pas référence à ce qu'on peut appeler un droit créance, et je y reviendrai, mais à un droit liberté, et en disant « la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ». Ça ne change rien, il y a eu des conditions qui ont changé, qui se sont plutôt améliorées d'ailleurs en France, et on n'a pas besoin d'une constitutionnalisation pour le faire. Alors, quelle est la différence entre un droit créance, parce que c'est vraiment important dans ce cas-ci, et un droit liberté? C'est que le droit créance engage la responsabilité de l'État pour la réalisation de ce droit en question, puisque les individus ont une créance sur l'État du fait d'avoir rempli leur devoir de citoyen et citoyenne par le paiement soit de la cotisation sociale, soit de l'impôt ou les deux. Donc l'État est un garant des droits sociaux et ici du droit à la santé. Tandis qu'un droit liberté, c'est la reconnaissance à l'individu de sa capacité d'action face à une possible intrusion de l'État. Et donc, par contraste, l'État n'est pas contraint d'assurer des conditions d'accès à cette liberté, par exemple, par des politiques sociales, des remboursements de la sécurité sociale ou des subventions aux cliniques qui pratiquent, par exemple, des IVG. Donc, c'est quand même un élément fort important qui vient mettre un bémol, parce que finalement, la constitutionnalisation du droit à l'IVG, c'est un enjeu qui provient d'un contexte international, c'est-à-dire notamment le revirement spectaculaire de la Cour suprême américaine, qui est revenue sur le fait que la Constitution fédérale permettait, protégeait depuis 1973, le droit à l'avortement, à l'interruption de grossesse. Puis il y a plusieurs régressions, on le sait, dans différents pays européens, en particulier en Europe de l'Est ou du Sud. Donc la constitutionnalisation de ce droit, dans ce contexte, en principe, est une réponse conçue comme une sorte de clause de non-régression. On peut améliorer la loi, mais l'idée, c'est de ne pas revenir en arrière et de reconnaître les femmes en tant que sujet de droit. C'est effectivement important que la France puisse constitutionnaliser ce droit d'accès à un avortement sûr et légal, mais encore faut-il que les formulations aient un sens de non-régression. Voilà ce que je dirais pour ma part.
Merci pour vos réponses qui étaient très claires. D'ailleurs aussi, par rapport à ça, on voit que la société civile, elle est très importante dans ce combat. Et donc, on a des groupes organisés, d'ailleurs, qui soient pro ou anti-IVG, qui se mobilisent dans la sphère publique et politique, justement, pour le labelliser comme un problème public dans l'arène parlementaire des États membres et de l'Union européenne.
Alors, parmi celles-ci, Violaine Lucas, on retrouve Choisir pour la cause des femmes, la vôtre. Pouvez-vous nous en dire plus sur son rôle, ses objectifs, comme vous l'avez évoqué assez brièvement tout à l'heure, mais aussi sur votre stratégie d'action au niveau national pour faire passer ce genre d'idées? Et est-ce qu'il y a un vrai réseau au sein de l'UE là-dessus, entre les principales associations européennes de défense de l'IVG et plus généralement des droits des femmes?
Alors, il y a plusieurs questions. Il me semble dans l'ordre, en fait. Nous, notre action, elle a constitué en fait en 1979 pour la première élection au suffrage universel direct du Parlement européen. Gisèle Halimi s'était demandé ce qu'on pouvait faire pour que l'Europe soit une chance pour les femmes, et notamment elle pensait évidemment au droit à l'IVG. Elle avait imaginé donc le principe de la clause de l'européenne la plus favorisée, qui consiste à prendre les meilleures lois dans l'Union européenne concernant les droits des femmes et favorisant leur émancipation, c'est-à-dire la capacité de choisir de donner la vie, la capacité d'être protégée, d'accéder à un emploi, d'avoir les mêmes droits que les hommes sur le marché de l'emploi, d'être indépendante économiquement, d'être protégée contre les violences, etc., etc. Tout ce travail, en fait, elle en avait eu l'idée en 79 et on y a travaillé vraiment à partir de 2005 pour faire notre première publication en 2008. Et quand on s'intéresse donc à la partie droit sexuel et reproductif, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des tas de réseaux qui travaillent entre eux pour ce droit à l'avortement. Et pour ce droit, parce que c'est indissociable de l'éducation sexuelle, de l'accès à la contraception et, en cas d'échec de la contraception, un accès libre et gratuit à l'avortement. Il y a évidemment beaucoup d'associations qui travaillent dans des réseaux qui sont même européens, mais aussi internationaux, comme le planning familial. Mais il y a des tas d'autres organismes comme cela qui vont essayer de fédérer un peu les luttes des femmes dans ce champ-là. Simplement, elles n'ont pas, je pense, la puissance de tir qu'ont leurs adversaires. Parce qu'en fait, depuis les années, je crois que ça commence, enfin, aux alentours de 2010 et un peu après, on va voir s'organiser vraiment très, très efficacement les adversaires de ce droit des femmes au choix de donner la vie. C'est-à-dire qu'on va trouver des groupements internationaux qui ont des relais puissants dans les différents pays de l'Union européenne et qui vont mobiliser des gens avec une perception très archaïque des droits des femmes, qui prétend qu'une famille, c'est forcément un papa et une maman, que les femmes ne doivent pas choisir le moment de donner la vie, etc., etc. Et ces réseaux-là, ils sont hyper puissants, hyper organisés, avec des moyens financiers extrêmement puissants. Et en face, mais on a l'impression qu'il n'y a pas la même mobilisation, même si elle existe, des féministes. Et donc, on essaye de porter cette idée, on essaye de faire en sorte que toutes ces femmes qui, dans tous les pays, luttent dans le même sens, puissent collaborer. Alors, il y a des réseaux, donc planning familial, mais le lobby européen des femmes ou d'autres essayent de faire ce travail-là. Mais ça nous apparaît, en tout cas à nous, peut-être pas encore suffisant. Et on essaye de renforcer ce travail-là avec notre clause. Et comme on avait publié un livre en 2008, on s'est dit qu'il fallait le réactualiser. Et c'est pour ça qu'en 2022, là, en juillet, on est parti faire ce tour européen des droits des femmes, pour essayer d'entrer en contact avec toutes les associations de défense des droits des femmes dans tous les domaines de leur vie, pour essayer de leur dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe chez vous qui est bien, qui fonctionne bien, et que vous pourrez appliquer aux autres citoyennes européennes, pour peu qu'il y en ait au niveau européen la volonté. Quels sont au contraire les reculs dont vous êtes victime et qui rendent compliqué vos existences dans tous les domaines, mais particulièrement sur la question de l'avortement. Et là, ce qui apparaît, c'est vraiment quelque chose, des choses vraiment très contrastées d'un pays à l'autre, avec certains pays dans lesquels les mobilisations féministes, comme partout, quand il y en a, et qu'elles sont relayées par un pouvoir qui est très conscient de ces enjeux féministes, arrivent à des victoires. Il y en a quelques-uns dans lesquels il y a des victoires qui sont pas forcément... il peut y avoir des avancées législatives, mais pas forcément traduit concrètement tout de suite dans les actes, mais au moins il y a ces victoires. Et puis de l'autre, il y a des reculs qui sont extraordinairement inquiétants. Alors nous, pour porter ce projet au niveau national, c'est pas notre urgence en fait de la porter au niveau national, puisque notre projet est européen. Donc notre urgence à nous, c'est de le porter auprès des instances européennes. C'est pour ça que le 8 mars prochain, on organise un événement au Parlement européen, en présence du commissaire européen aux affaires sociales et des parlementaires européens qui ont inscrit le projet de la clause de l'européenne la plus favorisée dans leur programme politique, pour rendre compte avec certaines des associations qu'on a rencontrées des demandes différentes, des situations très différentes d'un pays à l'autre, pour rendre sensible ça devant les institutions européennes.
D'accord.
Alors évidemment, on attend que les institutions nationales s'en emparent. Elles en sont plus ou moins emparées, mais on n'a pas été auditionné encore par la ministre oui. des Droits des Femmes. On n'a pas eu de relais nationalement aussi fort qu'on aurait pu l'espérer.
Eh ben, c'est bien noté, et on va en parler plus tard dans l'émission de cette dimension européenne aussi.
Et d'ailleurs, vous avez aussi parlé un petit peu des associations anti-choix, et ça fait une très bonne transition parce que justement, Bérangère Marques Pereira, vous avez consacré une partie de vos recherches sur ces associations. Et justement, dans votre dernier ouvrage sur le droit à l'avortement, vous présentez notamment la Fédération européenne One of Us. Et cette fédération, elle a d'ailleurs été créée à l'initiative de députés européens. Et donc, on voit que, en réalité, les milieux conservateurs y bénéficient de nombreux points d'entrée au Parlement européen. Et justement, la littérature académique, elle a aussi pointé en fait que les groupes anti-choix y profitent justement de l'ambiguïté des traités européens pour se positionner contre l'avortement, en utilisant un vocabulaire qui est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Est-ce que vous, Bérangère Marques Pereira, en deux minutes, vous pourrez un petit peu nous dire si vous pensez que l'ensemble de ces facteurs, ils ont à terme pour conséquence d'affaiblir et même de museler les associations qui défendent un accès à un avortement sûr et légal ?
Avant de répondre directement à la question, un certain nombre d'éléments qui vont permettre de mettre en relief ma réponse. C'est vrai que ce n'est pas favorable hein, pour les associations. Mmh. Mais donc, tous ces mouvements anti-IVG se rejoignent autour de l'idée que le but exclusif de la sexualité, vous le savez, c'est la procréation. Et ça s'inscrit dans un projet de retour à l'ordre dit naturel. Ça veut dire quoi ? Et c'est très grave. C'est considérer que la dite loi naturelle, transcendante et immuable, doit s'inscrire dans le droit positif et s'imposer aux croyants, mais aussi aux non-croyants. Et c'est notamment ce que prône la fédération One of Us, qui a été créée, qui rassemble une série d'associations anti-IVG, et qui a été créée à la suite de la pétition citoyenne européenne One of Us, qui visait notamment, pas uniquement, à interdire l'avortement. Et il faut savoir quand même que cette pétition et cette fédération reçoit le soutien des papes Benoît XVI, François, et des protestants évangéliques au niveau de l'Union européenne, ainsi que de la COMECE, la Commission des épiscopats de l'Union européenne. Donc, il y a un soutien institutionnel majeur des églises, en particulier protestantes, évangéliques et catholiques. Elles mobilisent ces associations le langage des droits humains. C'est le langage de la politique internationale. Alors bien sûr, vous vous doutez bien que l'articulation des droits humains ne se fait pas de la même manière quand on est une association anti-IVG ou pro-IVG.
Bien sûr.
En particulier, pour le dire vite, ce qui est mis en avant par toutes ces associations qui sont adossées à l'Église, qui s'arrogent le monopole de la parole éthique, ce qui est quand même assez grave, parce que ça biaise complètement un débat public. Ce qui est mis en avant, c'est le droit de l'enfant à naître. La grosse différence entre ces associations, et ça pèse sur le débat public, d'une part, c'est cette monopolisation de la parole éthique, et d'autre part, les anti-IVG considèrent les pro-IVG comme des ennemis politiques, et on ne négocie pas avec un ennemi politique, on les radique. Tandis que les associations pro-IVG considèrent les autres comme des adversaires politiques. Alors là, il y a un problème pour la construction de l'espace public d'un débat un peu digne de ce nom. Parce que du côté des associations anti-IVG, vous avez une structure d'argumentation et de positionnement qui est le clivage absolu entre le « nous » et le « eux ». Et là, il y a un danger pour la démocratie libérale, au-delà même de la question de l'IVG. Voilà ce qui me semble important peut-être à mettre en relief.
Bérangère Marques-Pera, justement, vous qui êtes à Bruxelles, vous avez pas mal parlé de l'Union européenne, vous avez peut-être un regard particulier là-dessus. On voit que avec le système de l'Union européenne, sur la question, il faudrait absolument un consensus pour que de nouvelles choses passent. Par rapport à tout ce que nous venons d'énoncer, cette perspective nous paraît assez compliquée. Tout d'abord parce qu'au sein du continent européen, le droit à l'avortement est à géométrie variable, comme nous l'avons vu, et certains pays l'interdisent encore. Alors selon vous, est-ce que vous pensez qu'un consensus est possible parmi les 27? Et sinon, si oui, de quelle manière est-ce qu'il faudrait plutôt utiliser la persuasion ou l'imposition?
Étant donné tout ce que j'ai dit, je crois qu'effectivement le consensus, c'est pas pour demain matin. Mais le juge européen a d'ailleurs acté dans une série d'arrêts que l'existence de cette absence de consensus sur ce qu'est le début de la vie. Donc, ça veut dire que l'appréciation est largement laissée aux différents États membres. Donc, avec des législations et des applications de ces droits qui sont à plusieurs vitesses et qui ouvrent la porte à des régressions, dans un contexte de montée de l'autoritarisme et du populisme identitaire de droite, plus le principe de subsidiarité qui donne la décision à l'État national, on est loin d'avoir des possibilités de consensus. Alors, je pense qu'il faut, comme a dit Violaine Lucas, travailler à une homogénéisation du droit d'accès à l'IVG à travers cette clause de l'européenne la plus favorisée, donc prendre le meilleur de chaque législation en matière d'avortement dans ce cas-ci pour pouvoir l'appliquer à toutes les citoyennes. Alors, même si on sait que ce n'est pas pour demain matin, il n'en demeure pas moins que, on ne peut pas passer par l'imposition, ça n'a pas de sens dans ce cas-ci, et il faut avoir bien à l'esprit que pour pouvoir faire passer cette clause, il faudra lutter contre deux enjeux majeurs du côté des anti. C'est d'une part cette mise en avant de la liberté de conscience qui est largement rabattue sur la liberté religieuse, et donc un usage abusif et ultra-abusif, me semble-t-il, de la clause de conscience, et mettre en avant le fait que le fœtus n'est pas un sujet titulaire de droit. Ces deux éléments-là sont des enjeux fondamentaux pour la vigilance des associations.
Merci à vous, Bérangère Marques-Pereira. Et justement, dans la continuité de cette question, on voit aujourd'hui que certains pays de l'Union européenne souhaitent un consensus au niveau international, le tout dans un contexte, donc, on le rappelle, de restriction de ce droit, par exemple en Pologne, ou encore en raison de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, comme en Italie ou en Suède. Et donc, Violaine Lucas, je voudrais vous demander, selon vous, justement, comment est-ce qu'on pourrait cadrer cette question pour qu'elle puisse gagner du terrain et pour que l'initiative constitutionnelle française influence, en fait, les autres pays d'Europe?
Alors, l'initiative constitutionnelle française, je ne sais pas si elle peut influencer. Nous, quand on a fait notre tour européen, on n'a pas terminé de le faire d'ailleurs, mais un des pays dans lesquels on a rencontré des féministes extrêmement fiers de ce qui existait dans ce domaine, c'est en Slovénie, où on nous a expliqué en Slovénie que depuis la nouvelle constitution de la Slovénie, il y a eu, je ne sais plus l'époque exacte, mais ils ont conservé dans cette constitution-là un élément qui était l'article 55, qui, alors c'est pas un droit à proprement parler comme évoquait Bérangère Marques-Pereira, mais il y a inscrit dans leur article 55 la capacité pour chacune de choisir de porter un enfant, et un deuxième alinéa de cet article 55 dispose que l'État doit tout mettre en œuvre pour que chaque personne puisse choisir librement de donner ou non la vie. Et c'est inscrit comme ça dans leur constitution, et elles sont extrêmement fières. Elles sont extrêmement fières d'avoir conservé dans leur actuelle constitution cet héritage de l'ancienne constitution. Et il nous a semblé que Ce qu'on voulait surtout pas faire quand on a fait ce tour européen et avant même quand on faisait la clause, on voulait surtout pas dire que la France était exemplaire, parce que c'est pas le cas et c'est loin de là. Parce qu'il y a des tas d'autres pays où les choses se passent beaucoup mieux sur même la question de l'avortement qu'en France. Donc je ne sais pas si on va obtenir cette inscription dans la Constitution, mais il y a des pays dans lesquels, en tout cas, ça semble déjà exister. Donc par exemple pour la Slovénie. Et ce sur quoi, alors je pense que la première partie de votre question reposait sur comment est-ce qu'on peut agir pour que ça marche. Je pense qu'en fait, il faut absolument recréer ou créer une force militante qui rayonne dans toute l'Europe. Alors exactement eux, comme le font nos adversaires, c'est-à-dire que on sent, mais eux, il y a des moyens financiers que peut-être nous n'avons pas, mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience et une implication totale, complète de les associations, elles l'ont déjà, mais en tout cas des élus, des parlementaires européens, pour se rendre compte à quel point c'est important qu'ils continuent à lutter, qu'ils ne s'arrêtent jamais. En fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose sur lequel, là, il faut militer plus que jamais. Et nous, on peut faire ce travail de militantisme, on le fait, le planning, toutes les autres associations partout le font. Ce qui était très étonnant et très intéressant à voir pendant le tour européen, c'est que quand on demandait avec nos petits moyens et nos téléphones portables, on faisait des petites vidéos qu'on rencontrait, on leur demandait bah, « Allez-y, qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce, quel message voudriez-vous transmettre aux autres ?» Et à chaque fois, il y avait l'idée qu'ensemble, on serait plus fort.
Oui, mais comme vous le disiez tout à l'heure, une grande coordination des associations européennes. C'est ça que vous...
Voilà, c'est voilà. Ça, mais avec... Mais je pense que ça ne suffit pas, en fait. Il faut à la fois cette coordination et à la fois il faut qu'il y ait des parlementaires qui se rendent compte que c'est quelque chose d'extrêmement important. J'étais au Parlement européen pour assister au débat sur la ratification par l'UE de la Convention d'Istanbul. Et dans cet hémicycle qui est immense, il n'y avait guère que les membres de la commission femmes qui étaient présents. Et je n'ai pas vu ou je n'ai pas entendu de prise de parole de personnes qui auraient assisté au débat, de parlementaires qui auraient assisté au débat, oui. Autres que des gens de l'extrême droite. Il y a eu 3 interventions pour interrompre ou pour poser des questions pendant que tous les parlementaires de la commission femmes prenaient position sur la ratification de la Convention d'Istanbul ou pas. Il y a eu 3 questions qui venaient de l'extrême droite. Il n'y en a eu aucune. Où il y a eu une intervention d'une députée, mais l'hémicycle était quasi vide. Et c'est ça qui est problématique. C'est pourquoi nos élus, pourquoi les parlementaires ne sont pas convaincus que c'est un combat de la plus haute importance et qu'il faut qu'ils s'engagent et qu'ils mettent en pratique ce qu'ils avaient. Ils ont tous appliqué la clause, ils ont tous mis dans leur programme la clause de l'européenne la plus favorisée, mais quand il s'agit de le faire, ben on ne les voit pas à l'œuvre. Et donc c'est là qu'il faut aussi qu'on agisse auprès des parlementaires pour qu'ils fassent leur travail.
Merci Madame Lucas, on vous a bien compris. Alors pour conclure cette émission, on avait une petite recommandation pour prolonger le débat. C'était d'aller visionner le film d'Annie Colère de Blandine Lenoir, l'histoire de la rencontre entre cette femme incarnée par Laure Calamy et le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception dans les années 1970 illustre bien le combat des femmes pour le droit à l'IVG en France et résonne encore aujourd'hui. Alors on arrive au bout de cette émission, Enquête d'Europe c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci Violaine Lucas d'être venue intervenir dans cette émission et merci à vous Bérangère Marquez Pereira de nous avoir apporté votre expertise. Ce furent des interventions très pertinentes. Alors vous pouvez réécouter cette émission quand vous le voulez en podcast sur le site euradio.fr et à la technique aujourd'hui on remercie Léo et merci à tous de nous avoir écoutés.
Et comme le disait tristement Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devez rester vigilante votre vie durant. Merci à tous.
C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master de Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.